Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être là ce matin. Merci à Manu qui a pu me remplacer la semaine dernière. On fait des échanges, on s'arrange. Je suis en plein boom en ce moment. Je vais peut-être prier avant de commencer là. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes le début de la semaine. Nous venons mettre en commun ce que tu fais dans nos vies, notre joie, mais aussi parfois nos peines, nos soucis. C'est difficile de laisser dehors tout ce que nous vivons et rentrer comme ça, disponible, vide, pour que tu nous remplisses, certes. Mais Seigneur, tu le fais quand même. Même au travers de nos souffrances et de nos douleurs, de nos épreuves, tu es là, tu es présent. Même au travers de nos manquements, de nos échecs, tu nous aimes. Tu nous aimes profondément, au point d'avoir donné ta vie pour nous. Seigneur, veuille ce matin nous conduire et m'aider à partager un petit peu sur ce que j'ai sur le cœur et qui est difficile pour moi à organiser peut-être. Seigneur, merci parce que nous pouvons compter sur toi, sur ton esprit, sur ta personne, parce que tu es là au milieu de nous. Nous te prions, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Je vais vous lire une lettre. La lettre d'un ami, un cher frère, qui travaille à la TUC, à Ouamantachi, en fait, la réserve indienne au Québec, où nous allons peut-être rejoindre en 2017 avec Isabelle et les enfants. Un gars qui a pas mal souffert. Ses parents l'avaient mis dans une école chrétienne. Et il a vécu certaines choses. Il a souffert pendant les années. Et voilà ce qu'il écrit. Vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. J'ai longtemps cru que j'avais eu ce que je méritais, que j'étais un enfant monstre et que ces bonnes personnes n'avaient pas eu le choix de me frapper encore et encore afin de faire sortir le méchant de moi. J'étais la mauvaise personne, c'est ce que l'on me disait. À quoi bon se plaindre si l'on a reçu uniquement ce que l'on mérite ? Et un jour, en grandissant, j'ai réalisé que la normale de ce que l'on m'avait enseigné et fait vivre ne l'était pas. Et petit à petit, j'ai réalisé que ces gens n'avaient aucune raison valable qui justifiait de m'avoir frappé. Ils étaient les méchants. J'étais un enfant. Pas un ange. Pas un être parfait. Pas un monstre. Pas l'incarnation du mal. Un enfant. J'ai eu la grâce de réaliser cela quelques secondes avant que toutes ces choses ne fassent de moi un véritable monstre. J'ai vraiment passé proche de devenir le monstre que l'on m'avait dit que j'étais. Heureusement, une voix intérieure m'a dit que je n'en étais pas un et que ces gens avaient déjà volé beaucoup de ma vie. Et j'ai décidé qu'ils ne gagneraient pas sur ma vie. Mais j'ai gardé le silence. On a joué sur mes émotions, mon sentiment de honte, ma fausse culpabilité pour me garder au silence. J'étais coupable de ce que j'avais subi. J'étais coupable d'en éprouver de la colère. J'étais coupable d'être incapable d'oublier. J'étais coupable d'être incapable de fonctionner normalement. J'étais coupable de ne pas être capable de faire confiance aux gens. J'étais coupable d'en parler. Et j'ai gardé le silence. J'avais très bien compris que dénoncer allait me coûter cher. La dénonciation avait un prix. J'allais devoir porter un odieux secret si je le faisais. L'odieux allait devenir de tous les gens que je plaçais en position d'inconfort en révélant leurs fautes et manquements. Tous les gens qui allaient se retrouver confrontés à se questionner sur leurs responsabilités. Toutes ces bonnes personnes, ces bons chrétiens qui allaient devoir se regarder dans un miroir et se demander s'ils ont bien agi, s'ils ont fait ce qu'ils devaient. Tous ces gens, certains de mes amis, des proches, qui allait se retrouver en inconfort et j'en serais le coupable. Je me sentais aussi coupable de savoir que cela continuait, de savoir que quelque part, des enfants souffraient encore du fait que personne ne parlait, que personne ne dénonçait la vérité étouffée, déniée, détournée, retournée, mais surtout cachée. Mais finalement, j'ai choisi. J'ai choisi de me regarder dans le miroir et d'assumer. Je n'étais pas un monstre, j'étais un enfant. On m'a volé une partie de ma vie, j'en ai gaspillé une autre partie, mais ce n'est pas toute ma vie. Maintenant, je suis un survivant et je vais vivre. Je ne suis en rien coupable de votre inconfort. Je ne suis en rien coupable de vos fautes. Je ne suis en rien coupable de salir la réputation des églises et de ternir la réputation de la religion chrétienne. Ceux qui ont fait et caché cela sont les responsables, pas moi. J'étais coupable de ma lâcheté et de mon manque de courage. Je m'en suis repenti. J'étais coupable de croire le mensonge que j'étais un monstre. Je m'en suis repenti. J'étais coupable de me sentir faussement coupable, je m'en suis repenti. Maintenant, je choisis de vouloir vivre ma vie à la lumière du soleil et non cachée dans une grotte. Je ne suis pas le monstre de l'histoire, j'étais un enfant. Marc Levasseur. Pourquoi je lis ça? Parce que tout un système a été bâti sur une lecture littérale de certains versets de la Bible. En l'occurrence, ne néglige pas le bâton pour ton enfant. Alors, peut-être certains pourraient m'expliquer comment on peut utiliser des versets de manière littérale et d'autres de manière imagée, sans passer par les 500 ans de colonisation, hein, sous couvert de la doctrine de la découverte, hein, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Tu feras ceci, cela. Prendre le narratif de l'Ancien Testament et le coller à une situation donnée dans un contexte particulier qui était celui de la colonisation. Mais comment nous, en tant que chrétiens, nous avons ce rapport à la parole de Dieu, ce que nous appelons la parole de Dieu, la Bible ? Que nous lisons, que nous interprétons et prêtons, que nous mettons en pratique de manière littérale. Parce que Dieu semble nous parler de manière littérale. Et parfois, on ne va même pas aux notes en bas de la page, parce qu'il y a des fois, il y a des crochets. Et tu vas en bas de la page, il est dit, ces versets-là sont absents de certains manuscrits. Et il ne te vient même pas à l'idée de te dire, mais comment ça se fait que c'est absent de certains manuscrits, ça? Mais qui a choisi les manuscrits? Quelle version tu as de la Bible? Moi, j'ai la seconde version 1978 Colombe. Tu as laquelle? La Darby? La Semeur? La Taube? La Martin? Quelle version as-tu? Comment ça se fait qu'il y a des choses qui sont écrites différemment? Comment Dieu peut me parler alors? Oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Inspirée. Qu'est-ce que je prends de matière littérale et de manière imagée? Comment je replace les textes? Comment on peut arriver à des choses pareilles? Parce qu'on a pris des choses au pied de la lettre. Et on a battu des enfants. Et en ce moment, au Québec, il y a une affaire, vous regardez sur Internet, l'affaire Guillot, le gars a été arrêté parce qu'il séquestrait des enfants dans la cave, dans une école chrétienne, évangélique. Séquestré. Et ce gars-là, ça lui est arrivé il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, les responsables de cette union d'église ont dit, écoutez, ce gars-là, ok, on va mener une enquête, mais on va le changer d'endroit. Vous savez un peu l'affaire Barbarin? On va le mettre ailleurs. On va le mettre ailleurs. Et ailleurs, il a fait exactement la même chose. Mais le pire dans l'histoire, c'est pas lui. C'est pas lui le pire. C'est le système dans lequel il a exercé. Parce que le système dans lequel il a exercé, était accepté de tous. On ne descend pas des enfants dans la cave dans une école sans que, un, les professeurs le sachent, ne soient pas au courant, et sans que les parents ne soient pas consentants. Parce que la théologie, la doctrine qui ressortit de ce fonctionnement, c'est bel et bien des proverbes tels « ne ménage pas le bâton pour tes enfants ». Vous voyez ? Notre théologie, ce que nous croyons, notre orthodoxie fait que nous pratiquons. Elle définit notre orthopraxie. Excusez-moi pour les mots, mais il existe des mots qui définissent des concepts et on ne peut pas les retirer de la vie chrétienne ni de notre théologie. Quand on parle de morale chrétienne, on est en plein dedans là. Quand on parle d'éthique, c'est on est en plein dedans. L'éthique, c'est la manière de se comporter, les uns vis-à-vis des autres, nous vis-à-vis de nos enfants, dans nos relations interpersonnelles, dans notre façon de voir et de vivre l'Église. Quelle manière adoptons-nous? Quelle morale? De quoi? Comment basons-nous ce que nous faisons? Sur quoi est-il basé? Sur quelle lecture? Dans le cadre de mon intérêt pour les Premières Nations et des pensionnats, j'ai dû m'intéresser d'un peu plus près au phénomène des abus, en l'occurrence sexuels, mais aussi spirituels. Et comme vous le savez, les pensionnats autochtones étaient dirigés par des communautés issues de la chrétienté, catholiques, protestants, mennonites, évangéliques, indépendants. Et dans le cadre de mon ministère en France, je suis de plus en plus confronté aux abus. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, j'ai découvert ça au travers de quelques immersions missionnaires, mais là je suis de plus en plus confronté. Alors cela va de la jeune fille ou du jeune homme abusé sexuellement à la mère de famille abusée spirituellement dans une communauté en pleine dérive sectaire. Par exemple, cette dame convoquée par le conseil de son église locale, il lui reprochait que son fils fréquente un jeune homme de couleur, que la communauté veut bien l'accueillir, mais seulement dans l'attente d'une conversion future. Ensuite, il devra aller trouver une église locale selon son arrière-plan culturel. Cela s'est passé il n'y a pas 15 ans. Ce n'est pas au siècle dernier, là. Pas besoin de vous dire que les fils de cette dame ne veulent plus entendre parler ni des chrétiens ni des églises. Autant d'histoires gravissimes, presque caricaturales. Il y a bien entendu beaucoup plus subtiles, moins visibles au premier abord. Parmi les phénomènes récurrents des comportements abusifs, il y a le formalisme, les accusations sous-entendues entre les victimes, les ragots, l'esprit de comparaison, l'esprit de compétition, le manque d'empathie, le jugement facile, la déconsidération de l'autre, les préjugés, les « il faut pardonner, il faut aimer, il faut obéir, il faut avoir plus de foi, il faut faire ceci et cela ». Il faut faire toujours plus d'accomplissements religieux. Il faut ne pas se relâcher au risque de CDI, CDD, tu es en quoi avec Dieu? Tu es en contrat à durée déterminée ou tu es en contrat à durée indéterminée? Quel type de contrat il t'a signé? Toi, ce que tu as signé, on s'en fout, parce que sa signature, elle est sur la croix. Il faut, tu dois yaka, lire, prier, chanter, aller à l'église. Et tu seras guéri, même guéri d'un viol, d'avoir été battu à l'aide de versets bibliques, d'avoir été soumis à faire et devenir ce que les autres, y compris parfois tes parents, souhaiteraient de toi. Mais tu pourras pardonner. Il faut. Tu dois. Il n'y a qu'un. Le système religieux est en définition abusif. Le système religieux est en définition abusif. Dans ce genre de communauté, on ne se rend pas compte que les gens vont parfois exécuter certaines choses dans le seul but d'éviter d'être humiliés, voire déconsidérés, ou ils vont faire les choses pour gagner l'approbation de quelqu'un, garder intact leur statut personnel ou celui de leur église. Mais ça n'est pas la vraie obéissance. Ça n'est pas la vraie obéissance, ni la vraie soumission. C'est une recherche de conformité. Ça ne jaillit pas là d'un cœur rempli d'amour pour Jésus. Ce n'est que la faiblesse conformiste qui se plie devant une pression extérieure. Et même si actuellement nous ne semblons pas avoir ce genre de soucis ici, et je m'en réjouis, il nous faut veiller, mes amis, à ne pas devenir des chrétiens qui suscitent ce genre de comportement. Surtout que ce genre de comportement, ceux qui en sont le plus atteints, sont souvent les plus sensibles, les plus vulnérables, et ça arrive tellement vite, croyez-moi. Nous allons ouvrir la Bible. Dans Luc au chapitre 7, c'était une petite introduction un petit peu longue, mais je pense que ça va éclairer un peu notre texte. Nous allons aller dans Luc au chapitre 7, versets 36 à 50. « Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table avec dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière et à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Ben, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné l'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu l'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en lui-même, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » À part Jésus, il y a un contraste étonnant entre deux êtres qui entrent en contact avec Jésus. L'une, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de statut, si ce n'est celui de pécheresse. L'autre a un nom, a un statut. L'une est pauvre, l'autre est riche. L'une n'a presque rien à offrir, mais ce qu'elle a, le peu qu'elle a, elle le donne. L'autre dispose de grandes richesses, mais il est quand même un peu radin avec l'eau. L'une est venue vers Jésus sans autre pensée qu'un élan d'amour. L'autre a fait venir Jésus par curiosité, je dirais presque une curiosité mal placée. L'une se sent coupable, l'autre a bonne conscience. L'une quittera Jésus avec un cœur complètement renouvelé, rempli d'espoir. Il n'est rien dit, mais l'autre, je pense qu'il se séparera de Jésus certainement plus mauvais qu'avant. L'une se voit telle qu'elle est vraiment. L'autre se surestime, il ne se voit pas tel qu'il est vraiment. On essaye un peu de décortiquer tout ça. Simon le pharisien est exemplaire, on va dire, dans le regard qu'il porte sur lui-même. Exemplaire. Exemplaire au point qu'il lui serait même difficile de ne pas le savoir, tellement que c'est quelqu'un de bien. Son exemplarité s'étend même jusque dans sa modestie. Même si le fait d'avoir invité Jésus à sa table aurait pu nous faire croire en son ouverture d'esprit, non, non, non. Le texte va plutôt nous dévoiler son mépris, son ignorance, son intolérance et son snobisme. À la question « Comment savoir qui est Dieu ?» ou « Comment connaître le cœur de Dieu ?» question que Jésus va d'ailleurs il va la poser indirectement, hein. Mais Simon aurait répondu, ben, pour connaître Dieu, il faut lire la Torah, la Bible, il faut la lire et la mettre en pratique, prier Dieu, obéir. Et dans la pratique, ça se traduisait de manière très concrète, hein. Faut pas croire. Hein. Les religieux juifs de l'époque pratiquaient. Ils donnaient la dîme de tous leurs revenus, 10%. Prier, jeûner, faire l'aumône, il faut s'habiller, se coiffer, avoir une apparence extérieure spirituelle, il faut être fidèle au temple, il faut persévérer pour gagner son entrée au paradis, Ça, c'est condition sine qua non. Si tu ne persévères pas, ben, tu risques d'aller en enfer. Il faut être un perushim. Un perushim, en hébreu, c'est-à-dire un séparé. Parce qu'en tant que croyant, on est certainement mieux que les autres, dans ce sens-là. Tu vois ? En tant que croyant, on est certainement mieux. Ben, c'est normal, on est croyant, enfin. Mais Simon est un curieux. C'est un curieux, il veut savoir qui est celui qu'on appelle Jésus. Il a certainement invité pour se faire une idée plus précise sur celui qui parcourt la Galilée, qui guérit les malades, qui prêche la venue du royaume de Dieu, paraît-il, il guérit les gens, enfin bref, un homme qu'on appelle prophète, un rabbi. Qui est ce gars-là? Ben, je serais bien curieux de savoir qui il est, donc je vais l'inviter à la maison. Et Simon parle amicalement avec Jésus après l'avoir installé, mais dans son fort intérieur, au fond de lui-même, derrière son attitude gentille, courtoise, il évalue Jésus. Le truc que je ne supporte pas. Fier de sa pratique religieuse, Simon pense qu'il a le discernement pour savoir ce qui ne va pas chez les autres. Lui, il sait. Il a lu, il pratique, il sait. Moi, j'ai rencontré déjà des gens comme ça. Je le dis, c'est pas top. Je pense que vous en avez rencontré aussi. Sous une fausse humilité, à cause de leur pratique religieuse, qu'elles se croient finalement très proches de la perfection, elles deviennent des personnes inenseignables. Elles savent. L'arrivée de cette pauvre femme sans nom, qualifiée de pécheresse, va permettre à Jésus de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Il va dévoiler les non-dits, les pensées cachées que Simon, le religieux, a dans son cœur, parce qu'il y en a plein, des choses cachées. Certainement, il a le sourire. Hein. « Oh, Jésus, ça va ? Oh, tu vas bien, allez, installe-toi, hein, fais comme chez toi. Hein. N'oublie pas que tu es chez moi. » Et au verset 39, les pensées de Simon sont dévoilées. « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Si cet homme était prophète, mais si ce gars-là ou si cette femme-là, elle était vraiment chrétienne. Elle est chrétienne à moitié. Parce que ceci et parce que cela. » Simon se disait ces choses en lui-même, il est dit. En lui-même, pas de peau. Il n'a pas de peau. Parce que Jésus, ben, il sait ce que nous disons en nous-mêmes. Vous savez quoi? En ce moment même, là maintenant, au moment où je vous parle, Jésus, il sait exactement ce que pensent chacun et chacune de nous en même temps. En même temps. Il connaît nos pensées, les pensées que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Il connaît nos mobiles les plus profonds, ce que nous essayons de garder caché. Et même, il sait ce que nous-mêmes, nous ne savons pas. Ah, mince alors. Il sait. Il sait ce qui te travaille ce matin. Il sait sur quoi tu te bases. Il connaît ta vie, ton passé, la construction de ta vie, la manière dont tu as découvert la foi, la manière dont tu vis ta vie chrétienne, la manière dont tu as tes rapports avec les uns et les autres, ce qui se passe dans ta vie de couple, il sait tout. Tout. Simon se disait en lui-même, Jésus lit dans les pensées, il lit dans le cœur. Il a la capacité de voir comme on voit, de ressentir comme on ressent, de comprendre comme on comprend. Il est Dieu. Jésus va s'adresser à Simon en ces termes. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Vous avez remarqué la réponse de Simon. Maître, parle, répondit-il. Ça, c'est vraiment l'hypocrisie à l'état pur. La comédie, c'est le même mot en grec, hein, comédien, hypocrite. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit des pharisiens que tout en se posant en défenseur farouche de la loi divine et de la morale, ils étaient eux-mêmes remplis de toutes sortes d'impuretés, de rapines et d'intempérances. Nous, on pense à des trucs, des vols, des machins, ou des, je sais pas, on s'imagine des trucs énormes. Tout simplement, l'hypocrisie. Tout simplement. Oui, maître. Oui, maître. Vas-y, parle. Je t'écoute, hein. Je suis là, hein. T'inquiète, hein. Maître.
Waouh.
Mais au fond de lui, il pense pas que c'est un maître.
Il le pense pas.
Du tout. C'est une formule de courtoisie. Mais Jésus est cool ce jour-là, il va raconter à Simon une petite histoire qui met en scène un créancier et ses deux débiteurs. Verset 42-43, un créancier avait deux débiteurs, dit Jésus, l'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur tenait à tous deux leur dette, lequel l'aimera le plus? Simon répondit, ben celui je pense auquel il a le plus remis. Ah, bien, tu as bien jugé, magnifique, fabuleux, top, ici, la grâce resplendit. Ben oui, hein. Une grâce qui ne découle pas de notre persévérance, ni de la quantité de nos pratiques religieuses, ni de notre statut, mais qui jaillit, toute gratuite, du cœur de Dieu, d'un cœur miséricordieux, compatissant. Jésus veut permettre à Simon de se focaliser sur Dieu et arrêter de se focaliser sur cette pauvre femme, à moitié dénudée, penché sur les pieds de Jésus, en train de pleurer sur ses pieds, et lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Jésus est en train de lui dire, arrête de regarder, arrête de juger, arrête. Regarde Dieu comment il est. Regarde le cœur de Dieu. Regarde donc. Et Jésus, en racontant cette histoire, en fait, il vise le cœur de Simon. Bien entendu, le créancier représente Dieu et les débiteurs. Hein? Le genre humain, entre un débiteur qui doit peu d'argent et un débiteur qui en doit beaucoup, si le créancier remet à chacun d'eux leur dette, lequel de ces deux l'aimera le plus? La réponse est évidente. Humainement parlant, on ne peut pas répondre autre chose que ouais, celui qu'on a le plus... La réponse coule de source. Simon n'a guère le choix. Peut-être même à contre-cœur, il va devoir donner la réponse. Parce que si Jésus aurait raconté une histoire du style, un patron avait deux employés qui étaient à son service. Pour le même salaire, l'un travaillait 35 heures et l'autre travaillait 55 heures. Ça tombe bien avec la loi M-Comrie, hein. Lequel de ces deux employés aime le plus leur patron et leur travail? Ah, il aurait raconté une histoire comme ça? Ben, je sais pas, qui aime Dieu le plus? Qui aime Dieu le plus? Celui qui travaille 55 heures ou celui qui travaille que 15 heures? C'est qui aime le plus Dieu? Raconté de cette manière-là, Simon, il se serait senti tout à fait dans son bain. En regardant cette pauvre pécheresse, il se serait dit, waouh, ah, franchement, c'est moi qui aime plus Dieu. Elle peut y aller à pleurer sur ses pieds, là. Quel hypocrite. C'est lui qui l'aurait traité d'hypocrite. Eh oui, Simon aurait dit, celui qui travaille 55 heures, et dans son cœur, Simon se serait identifié à ce serviteur, et se serait dit, c'est moi qui aime Dieu le plus, et pas cet ispice-là. Et en regardant cette femme, Simon se disait, dans son fond intérieur, burk. Mes amis, lorsqu'on a été trempé dans un système abusif, on dit aussi burke, pas nécessairement devant une prostituée habillée en mini-jupe, mais on peut le dire devant quelqu'un qui ne correspond pas à ses critères de sélection, quelqu'un qui ne correspond pas à sa grille de lecture spirituelle. Vous savez, il est tellement facile finalement de mesurer le degré de pratique religieuse de quelqu'un. En revanche, il nous est beaucoup plus difficile de mesurer l'amour. L'amour. L'amour se mesure plutôt dans notre capacité à véhiculer, finalement, la compassion, la miséricorde, le pardon, la grâce. L'amour, c'est une vraie considération de l'autre, quand bien même il ne correspond pas à son tableau d'analyse, à ses critères de sélection. Ça ne correspond peut-être pas à ce que nous avons élaboré nous-mêmes, ce que nous pensons pour acquis. Et ceux qui nous entourent sont hypersensibles à ces choses-là. Hypersensible, beaucoup plus sensible que le fait de nous voir aller à l'église, Bible sous le bras, beaucoup plus sensible à l'amour que nous leur portons, le respect que nous leur portons, la considération que nous leur portons. Quand bien même leurs choix de vie sont différents des nôtres, Il se sent aimé. Il se sent aimé. On ne va pas leur parler de la foi ni de Jésus, tout ça pour qu'ils viennent à l'église. Ou pour qu'ils se convertissent, même si on aimerait qu'ils découvrent qui est Jésus d'abord. Et pas qu'ils passent par un protocole. Les critères fondés sur le cœur de Dieu sont la compassion, la miséricorde et la grâce. Rien à voir avec les critères que nous établissons nous-mêmes. En fonction de notre éducation, de notre apprentissage, de notre vécu, de notre statut, de notre sensibilité personnelle, de notre analyse personnelle que nous pensons juste et souvent infaillible. Il faut reconnaître que seul Jésus est infaillible. Notre conscience est faillible. Tu le savais ça, que ta propre conscience qui te dit que tu as bien fait, c'est faillible? C'est faillible. Ça ne tient pas. Nous ne sommes pas infaillibles, quand bien même nous faisons tout. Nos analyses et critères d'évaluation envers les autres sont faillibles. Notre bonne conscience est faillible. Et Jésus invite à nouveau Simon à regarder au verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Après avoir regardé Dieu, le cœur de Dieu, il lui dit, « Vois cette femme. » Vois-tu cette femme ? Verset 44. Vois-tu ? Tu la vois ? La parabole a permis à Simon de voir le cœur de Dieu. Et cette femme va peut-être lui permettre d'avoir un autre regard, non pas sur elle, mais sur lui. Sur lui. Parce que c'est ça le but. Parce qu'automatiquement, si tu as un autre regard sur toi, tu vas avoir un autre regard sur l'autre. C'est pas le regard que tu as sur l'autre qui va changer le regard que tu as sur toi. On inverse souvent les choses. Hein. C'est surtout le regard que nous avons sur nous-mêmes qui va nous changer notre regard sur les autres. Parce que plus nous nous voyons tels que nous sommes, plus nous voyons à quel point Christ est mort pour nos péchés parce que nous sommes zéro, parce que nous méritons rien. Nous sommes des impies, nous sommes rien du tout, que dalle. Il nous a tout donné de A à Z. Tant que nous n'avons pas réalisé la grandeur et l'immensité de son salut parce que nous ne le méritons pas, mais on ne peut pas voir l'autre avec humilité. On ne peut pas. On voit ce qu'on fait. C'est beau. On voit ce qu'on est, comment on fait, comment on agit. Mais on ne peut pas voir l'autre, celui que Christ aime, au point d'avoir donné sa vie. Et Jésus dit à Simon, verset 44, « Tu vois cette femme ? Tu vois ? Ben, je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu m'as invité chez toi, mais qu'est-ce que tu as fait ? Bon, nous, dans la région, le rituel, c'est l'apéro, mais à cette époque, l'invité attendait que son hôte, ce petit rituel du lavement et du rafraîchissement des pieds. Ça, c'était la coutume à l'époque. Ce petit rituel juif procède de la même logique que celle de l'apéro. Hein. C'est les lois de base de l'accueil et de l'hospitalité. Et verset 45, tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Moi, j'aurais rajouté si j'étais Jésus, et puis après tu m'appelles maître. Tu te fous de qui, là ? Et Jésus tente d'ouvrir les yeux de Simon sur lui-même. Verset 47-48, et Jésus continue en faisant un magnifique parallèle avec la parabole. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Elle était consciente de sa misère. Faut-il être une prostituée pour être consciente de sa misère ? Je crois pas. Surtout au regard de la sainteté de Dieu. Je termine juste par une petite application pour nous-mêmes. Est-ce que je suis ce que je vois dans le regard des autres ? Est-ce que le regard des autres me renvoie à ce que je suis vraiment ? Parfois oui, parfois non. Par contre, je pense que le principal est ce que je vois de moi dans le regard de Jésus. Ce n'est pas une excuse pour ne plus accepter d'être enseigné par les autres. Hein. Attention, hein. Parce que ça, c'est aussi trop facile. Moi, je dois rendre des comptes qu'à Dieu. Ça, c'est, Ça, c'est du flan. Hein. Laisse tomber l'église, alors. Hein. Laisse tomber l'église. La mission, laisse tout tomber. Laisse tomber ton boulot aussi. Parce qu'on a tous des comptes à rendre les uns aux autres. Tous. Le plus grand danger est que je ne me laisse plus analyser, transpercer par le regard de Jésus sur tout ce qui constitue ma vie. Mes relations, mon renouvellement spirituel. Suis-je ce que je veux être ? C'est Nietzsche, je crois, qui disait « Deviens ce que tu es ». Pour lui, chaque homme fabrique deux représentations de lui-même, d'une part ce qu'il est et d'une part ce qu'il voudrait être. Et dans notre relation avec Christ, Nietzsche, finalement, si c'est vraiment ce qu'il voulait dire, n'avait pas si tort que ça. D'un côté, Christ nous révèle qui nous sommes, tout en nous accompagnant dans notre ambition pour lui, celle de le ressembler toujours plus. Que de déceptions pour des personnes qui ont vécu des expériences comme celles que j'ai racontées au début. Hein. C'est marquant, c'est négatif. C'est terrible. Que ce soit dans la vie sociale, dans la vie religieuse, c'est catastrophique. Catastrophique. Que de déceptions pour ces hommes et ces femmes qui n'ont pas compris la grâce imméritée de Dieu. Vous savez, il existe une escroquerie qui est bien connue. C'est l'escroquerie que l'on appelle l'appât et la trappe. Vous connaissez ça ? L'appât et la trappe. L'appât et la trappe, ça consiste à attirer le client en lui promettant certains plaisirs ou un bien, quelque chose. C'est l'appât. Mais lorsqu'il répond à l'offre, l'objet promis est remplacé par quelque chose de faux, un facsimilé, très différent de ce qu'il attendait. C'est précisément ce qui se passe dans les milieux ou les systèmes abusifs. Dans ces systèmes, l'appât, c'est la promesse d'une relation avec Dieu, la paix de l'âme, le pardon des péchés, tous, sans exception, ceux d'avant, cependant, ceux d'après. Et rien de moins qu'une toute nouvelle identité en Jésus-Christ, un nouvel ADN. Et quoi de plus formidable ? C'est gratuit. Tout est immérité, donné par grâce au moyen de la foi. Et une fois que les gens ont intégré ce système, le système en tout cas, on peut sortir la trappe. On avait l'appât, et après on a la trappe. Et la trappe c'est quoi ? On dépose sur eux des fardeaux, de nouvelles règles, des idéaux à atteindre. Ah, ils entendront bien parler de la grâce, de la vraie vie, ils chanteront même sur ces thèmes. Tout en réalisant qu'ils ne reçoivent guère ce qui avait été promis au départ. Ils n'ont pas trouvé le règne de Dieu rempli de vie, sinon un Dieu substitut. Qui soudainement exigent d'eux une énorme quantité d'activité. Ils doivent prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont de bons serviteurs. Et on utilise le langage de Dieu pour les faire agir. Et un des aspects clés utilisés par ce système est la perte de ce que Dieu vous a donné gratuitement. Une sorte d'épée au-dessus de la tête qui pousse les gens à l'insécurité et à l'incertitude. Je termine juste en citant trois phrases. Trois phrases qui m'ont été d'ailleurs rappelées par mon ami Marc. Parce que je peux vous dire que quand il s'est fait interroger par la police et les médias, et qu'il a dit qu'il était pasteur, les gens n'en revenaient pas. Comment ? Toi qui as vécu tout ça, tu es pasteur ? Ben dis donc. Mais c'est pour ça qu'il travaille avec les autochtones. Parce qu'ils ont vécu tout ça aussi. Il m'a rappelé ces trois versets, Philippiens 1:6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce verset, il lui a été donné le jour où il était dans sa voiture, en bas de l'immeuble de celui qu'il avait battu pendant des années, avec un fusil à la main. Il était dans les choux, hein. Ça a été moins une pour qu'il commette un meurtre. Il l'avait déjà commis dans sa tête. Parce que Jésus a dit que celui qui a de la haine a déjà commis un meurtre. C'est comme l'adultère. Puis Philippiens 2:6, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. À quel moment, ni toi ni moi nous le savons. Il vient te chercher, tu lui appartiens, il va venir te chercher. Je dis donc, marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps que nous pouvons avoir pour ouvrir ta parole.